Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous. Gilles, ça commence par un éclat de rire, parce que oui, j'ai fait tomber mon portable, voilà, en me tournant. Et bah très bien, comme ça je ne le regarderai pas, j'ai peut-être cassé. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité des médias avec Gilles Gansman, vous l'avez entendu rire. Bonjour, bonjour Rémi, bonjour Pernelet, Rémi. Qui sourit.
Bonjour plus, Valérie.
Il a le rire plus discret.
Voilà, c'est un peu d'exigence sur l'humour.
Allez, on va recevoir tout à l'heure Martine Laroche-Joubert pour son livre « Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre ». C'est passionnant. On parlera avec elle de ses différents reportages et puis de ce qui est devenu le métier de journaliste aujourd'hui. C'est impressionnant. Donc on en parlera avec elle. On va vous donner toutes les petites infos qu'il faut connaître sur ce qui est en train de se passer dans les médias. On peut s'en passer aussi, mais c'est pas inintéressant parfois. Et puis à partir de 11h, les débats d'actualité. Coucou, revoilà les quotas. C'est le ministre de l'Intérieur qui évoque la possibilité de proposer des quotas pour l'immigration, en tout cas en ce qui concerne l'immigration économique. On pourra parler du service national universel qui démarre aujourd'hui. Le bac, racontez-nous vos souvenirs du bac et est-ce que, d'une certaine manière, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation n'est pas en train de le supprimer. Voilà. Allez, on va passer aux audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, on commence avec le carton.
Ben oui, le carton du week-end, c'est pour TF1 hier, 6 115 000 téléspectateurs et 28,9% de part de marché pour le film Alibi.com.
Incroyable.
Et avec Philippe Lachaux, oui, c'est un énorme score. 2 300 000 de plus que la semaine dernière et TF1 était largement en tête hier puisque toutes les autres chaînes étaient en dessous des 3 millions de téléspectateurs, juste un peu au-dessus des 2 millions. Donc, un gros succès pour ce film qui sent bien, j'allais dire, l'ambiance de vacances un peu aussi.
Oui, c'est un film marrant.
Bon, c'est un film drôle.
Appelez-nous pour nous dire ce que vous avez regardé hier, 0826-300-300, on attend vos réactions.
Et bon score aussi pour TF1 vendredi, 4 17 000, c'était le carton jusqu'à ce matin, 4 17 000 téléspectateurs et 22,3% de part de marché pour l'avant-dernier épisode de Koh-Lanta. Puisque maintenant on connaît les finalistes, c'est 400 000 de plus qu'il y a 15 jours. Parce que la semaine dernière, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football. Mais c'est 1 200 000 de moins que l'année dernière. Koh-Lanta est en forte baisse cette saison par rapport à la saison précédente.
Le Gadin, c'est pour qui?
Le Gadin, c'est tout est pour TF1, vous voyez. Même le Gadin aussi, samedi. Seulement 2 904 000 téléspectateurs et 15,9% de part de marché pour la chanson de l'année. C'est 2 100 000 de moins que la semaine précédente. C'était du foot, d'accord. Et c'est surtout 900 000 de moins que l'an dernier. C'est le plus bas record historique de l'émission qui n'était jamais descendu sous les 3 millions de téléspectateurs depuis ses créations. C'est un peu le même phénomène que The Voice. The Voice, la chanson de l'année. Ça marche pas fort pour l'émission de présentation.
Qui avait été enregistrée il y a un mois à l'avance, c'était pas en direct. Donc
c'était pas en direct, mais les téléspectateurs ont voté quand même en direct.
Ah oui.
Et comment c'est possible?
Mais comment c'est possible? Parce que je me suis posé la question, puis après j'ai oublié.
Et bien, je vais vous dire, c'est parce que tout simplement, Nikos avait enregistré des messages avec chacun des chanteurs qui interprétaient la chanson de l'année, et donc en différé. Et donc il a choisi
un peu moyen comme
la gagnante.
Non, c'est un peu bizarre comme truc.
Mais
vous imaginez si je vous dis si on doit enregistrer des messages, je suis tellement contente d'avoir gagné, vous gagnez pas?
Oui, je pense que c'est déjà arrivé à la télé.
Plein de fois.
Maintenant, on le sait. La différence, c'est qu'on le sait. Ça n'a pas fonctionné.
La première chaîne, juste je le signale, samedi, c'était France 2. 3 203 000 téléspectateurs. Pour la finale du top 14 de rugby entre Toulouse et Clermont, c'était 700 000 de plus que la semaine dernière et 130 000 de plus que la finale de l'an dernier. C'était un bon score donc pour le rugby.
Vive Toulouse, bravo Toulouse.
C'est Toulouse qui a gagné.
Et la surprise,
alors la surprise, c'est pour Arte. D'abord samedi, 1 193 000 téléspectateurs et 6,3% de part de marché pour Guédelon 2. C'est un documentaire qui suit la construction d'un château en Bourgogne avec les matériaux et les techniques du XIIIe siècle. Très intéressant. Arte était la 5e chaîne samedi soir. Et puis Arte était à nouveau la 5e chaîne hier avec, alors là c'est tout à fait autre chose, le film Nevada Smith, 1 756 000 téléspectateurs, un western de 1966 avec Steve McQueen. Je voudrais signaler peut-être la dernière des Terriens du samedi, Thierry Ardisson sur C8, en prime samedi, 639 000 téléspectateurs. C'est pas terrible. Philippe, c'est 200 000 de plus que la semaine précédente, c'est vrai, mais la dernière d'Ardisson sur C8, il avait beaucoup communiqué. Oui. Moi, je m'attendais quand même à un peu plus.
Oui, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il a... Moi, j'ai cru que c'était déjà passé, en fait, la dernière. C'est qu'ils ont tellement communiqué au moment où ils l'ont enregistré que...
Moi aussi, je croyais que ça avait été déjà diffusé.
Je croyais que ça avait déjà été diffusé. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de communication, en tout cas.
Trop de communication, tu la communication.
Pat nous dit, elle a regardé Koh-Lanta parce que c'est bien pour faire un régime. Voilà. Mickaël a regardé l'émission spéciale Eli Kaku officielle et la chanson de l'année. Alors, Mickaël, la chanson de l'année, vous avez kiffé, comme on dit. Eli Kaku, ça a marché ou pas, Rémi? Je vous prends au piège pendant ce temps-là.
Alors, je vais vous dire pourquoi elle dit ça. C'est parce que dans Koh-Lanta, ils se sont pesés et ils ont eu une glace dans l'émission. Et ils ont vu, en moyenne, ils ont perdu entre 8 et 15 kilos. C'était assez impressionnant. Ouais. Ils se sont découverts.
Et non, ça n'a pas tellement marché.
Pas de patte, faut y aller. Hein.
1 311 000 téléspectateurs, donc non, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, Eli Kaku.
Sur France 3, en prime.
Mickaël, vous avez regardé donc des émissions qui n'ont pas marché. Robert est en ligne avec nous. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez regardé ce week-end?
J'ai regardé le match de rugby,
ouais. Vous avez l'air un peu déçu.
Disons que je n'avais pas de parti pris. J'avais pas de parti pris parce qu'en fait, même finalement, je trouve que le stade, il y a beaucoup de comédie. Ouais. Donc, il y a des choses peut-être plus graves que le stade. Ils sont bien nourris, il leur manque rien. Hein. Est-ce que je préférais l'entraîneur qu'il y avait avant, là. Je regardais pas le match, je m'intéressais.
Guy Neves ?
Guy Neves, voilà.
Eh oui, mais il parlait ce matin sur Sud Radio,
oui. Oui, d'autant plus qu'on l'avait accusé quand même de choses qui n'étaient pas. Quoi. On l'a accusé de quelque chose qui n'était pas. Ça, c'est pas bien parce que c'était un type honnête. Et question rugby, il s'entendait. Il avait formé justement à l'époque une bonne équipe. Et maintenant, je trouve que c'est plus pareil. Ouais. Ce sont des petits jeunes qui. Non, c'est plus comme avant le rugby, je trouve.
Écoutez, voilà un avis, en tout cas. Et il y avait quand même du monde devant le poste, Rémi nous l'a dit. On a Marion en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Marion, qu'est-ce que vous avez regardé, vous?
Alors j'ai regardé, comme chaque semaine, Maison France 5 avec Stéphane Thébault.
Ah oui, vous êtes une fidèle?
Ah oui, complètement, oui. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces missions? Ça vous donne des idées?
Ah oui, ça me donne des idées. Puis surtout, ça me fait voyager à travers la France et découvrir des régions magnifiques. Ouais. Et comme je suis nord-américaine, je découvre comme ça la France aussi. Ah, donc c'est
bien.
Super. Oui, très
bien.
Très bonne émission.
Mais c'est une émission qui existe depuis, je crois que c'est...
Une dizaine d'années, plus 15 ans. La création de France 5.
Même. Oui, c'est la création de France 5.
Je pense qu'à la création de France 5, il y avait
déjà...
C'était
la maison Le Roi Merlin, ouais, et puis ça a évolué. Ouais. Donc et ça marche plutôt pas mal.
Oui, ça marche bien. Oui. 949 000 téléspectateurs. Valérie, je vous connais. En principe, j'ai tout sous la main parce qu'elle peut me demander n'importe quoi.
Le matin, l'après-midi...
Ouais.
Voilà.
Bon, mais la Maison France 5, on va en reparler tout à l'heure. Vous verrez dans les infos médias, il y a de quoi dire.
Bon, on a Christine, on vient de la voir. Christine en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous avez regardé quoi, vous?
Alors, pour parler du vendredi soir, j'ai regardé Une vie de chiot.
Oui.
Sur France 4.
Oui.
Et je trouve que si chaque personne, chaque maître de son chien regardait l'émission, eh bien, il apprendrait énormément de choses utiles pour bien s'occuper de son chien.
Vous avez un chien, vous?
J'en ai eu un, malheureusement, qui est décédé.
Ouais.
Mais en plus, je trouve que c'est vrai que c'est craquant, cette émission.
Ouais. Et ça vous donne envie, ça ne vous donne pas envie d'en reprendre un?
Si, bien sûr.
Si, hein. Ouais. Et alors, moi, je vois la campagne de 30 millions d'amis qui, chaque année, au début de l'été, alerte sur les abandons d'animaux. Voilà. C'est une chose que je ne comprends pas. Qui sont ces gens qui abandonnent leur animal au bord d'une route, dans la forêt? Enfin, je ne comprends pas pour les vacances, quand on a un animal, et vous semblez, vous, être passionné, Marion, comment est-ce qu'on peut, au mois de juin, au mois de juillet, dire on le laisse, on en reprendra à la rentrée? Enfin, franchement, si vous faites ça, auditeur de Sud Radio, je ne veux plus jamais vous parler. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui peut se passer dans la tête. Vous n'êtes pas d'accord, Marion?
Oui, surtout que
Christine,
cette émission prouve bien à quel point l'animal a un amour inconditionnel pour son maître.
Bien sûr, bien sûr.
Et en fait, c'est révélateur, quoi, du fait qu'il faut vraiment respecter et aimer son animal du début à la fin.
Oui, absolument. Bah, écoutez, merci de nous avoir appelés.
Je suis d'accord avec vous, le geste de l'attacher à un arbre, de repartir ou de monter dans sa voiture et de le laisser, c'est...
Alors, Cédric nous dit, vendredi soir, j'ai zappé frénétiquement, il n'y avait rien de rien. Je suis assez d'accord et c'est...
J'ai avec Koh-Lanta.
Oui,
bah, enfin... Voilà. C'est culte, madame.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais je pense que
beaucoup de gens qui regardent
de plus en plus de séries, qui regardent des choses sur YouTube également. Donc, c'est Rémi,
Une vie de show, c'est une série d'épisodes
qui marche
pas mal. 363 000 téléspectateurs vendredi, dans un univers le vendredi où il y a beaucoup de concurrence.
Absolument.
Mais qui a son public régulier, qui revient chaque semaine. Et il diffuse ça, France 4, par batterie de 6 épisodes, en fait.
Parce que vendredi, Eli Kako, ça n'a pas du tout marché.
Cantu nous dit, ça nous a changé du ballon ballon ovale. De plus, bravo au handball qualifié pour l'Euro. Effectivement, on en parle assez peu. Et perso, je persiste comme superficiel ce foot. Voilà, mais on peut pas y échapper. Bah, ce soir, il y a encore un match de l'équipe de France de foot féminine. Voilà, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Voilà, s'il n'y avait pas grand-chose ce week-end, j'ai quand même repéré des choses. C'était un samedi très people qu'on avait pu suivre dans les médias, car ce week-end, Valérie Rémy, c'était Johnny Hallyday, l'anniversaire de notre Jojo. Il aurait dû avoir 76 ans. Sa veuve, Laetitia, était, elle, à Toulouse pour soutenir, pas pour soutenir l'équipe de rugby, mais pour inaugurer l'esplanade Johnny Hallyday. Évidemment, lors du discours, Laetitia a craqué. Elle était en direct sur LCI.
Mon amour, on dit que chaque jour qui passe est un jour de gagner contre la douleur et le désespoir qui m'habite depuis que tu es partie. On me dit que chaque jour qui passe est une victoire, un pas vers une nouvelle vie qui sera un jour heureuse pour moi. Chaque jour qui passe est un jour sans mon homme, un jour sans toi qui était la moitié de moi.
Bon. De leur côté, ses ennemis jurés étaient aussi célébrés à leur façon l'anniversaire de Johnny Hallyday. Et bien évidemment, Laura et David Hallyday étaient au Cap Ferret pour célébrer le mariage de Laura Smet, qui était accompagnée donc de son frère, qui l'emmenait dans l'église, le rôle qu'aurait dû tenir son père. Et là aussi,
donc le jour de l'anniversaire de Johnny.
Là aussi, toutes les télés ont commenté en direct le mariage. Et cette fois-ci, on est sur CNews.
La cérémonie a duré un peu plus d'une heure, une cérémonie en présence d'artistes et de comédiens. Il y avait notamment Liane Folly ou encore Dominique Besnéard et on a pu voir également Jean-Louis Borloo qui était présent à cette cérémonie. Ensuite, le couple s'est rendu sur le domaine de Benoît Barantotte qui se trouve à la pointe du Cap Ferret. C'est dans ce domaine que vont se dérouler le reste des festivités de la journée, un domaine avec une vue imprenable sur la dune du Pilat et le bassin d'Arcachon.
Vous avez vu, c'était de l'actualité chaude. Oui,
surtout que c'est Barthorote qui, quand on fait le boulot de commentaire, en général, on essaye de se renseigner, mais bon.
Bravo, oui. Les journalistes de CNews appréciera. Et puis, alors, on espère qu'elle aura, qu'ils ont eu des meilleurs amis que Rachel Trapani, la Miss France, qui elle avait vendu son mariage à Gala. Et avec.
Il n'y a pas qu'elle. Hein,
oui, bien sûr. Là aussi, je pense que le mariage a dû être vendu avec Aurélien Capoué, qui est footballeur au FC Nantes. Capou,
Capou. Oui.
Moi, je ne pourrais pas travailler à CNews, vous voyez.
Bah, si.
Mais, si. Et elle a raconté donc, dans « Touche pas à mon pote People » sur C8 comment finalement ça s'est très mal passé entre elle et la presse à cause d'une amie.
Ton mariage à toi,
par exemple, mon mariage, j'avais signé une exclusivité avec une agence de presse.
Ouais.
Donc en fait, le photographe m'a suivi toute la journée.
Combien ?
De belles photos. Ah. C'était pas très très.
Mais c'est quoi ? Faut pas dire ça parce que souvent c'est beaucoup pour les gens.
Vas-y.
Et c'était pour Gala à l'époque.
C'était pour Gala. Mais en fait, le souci, c'est
le montant.
Combien ça coûte ton mariage ?
Non, mais attends, parce que le souci, c'est que j'ai un invité qui a balancé les photos.
Mais non.
Donc ça a forcément.
Ça a cassé l'exclus.
Ça a cassé l'exclus. Et on s'est fait niquer.
Et du coup, le journal n'a rien payé.
Comment ?
Du coup, coup, le journal n'a rien payé.
Pas grand chose.
Pas grand chose.
Pas grand chose. Et je devais faire une couve et au final, ça a été une accroche de couve. Oui, je sais très bien qui c'est.
Un ami.
En fait, c'était le mec d'une copine.
Oh là là. C'est souvent ça.
Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est dans votre mariage et qui vend les photos à quelqu'un d'autre.
C'est arrivé plein de fois. C'est arrivé.
Bah oui, Patrick Bruel, le mariage ultra secret dans la mairie du 13e. Il y a des photos qui étaient complètement bookées par match. Et il y a des photos qui sont sorties.
Dans
ce cas-là, il y a une clause qui est prévue dans les journaux pour pas payer.
Non, c'est compliqué.
Pat
nous dise désolé, trop c'est trop pour l'anniversaire de Johnny. Et Betty nous dit, moi j'ai les larmes aux yeux, et c'est ironique, évidemment.
Hier, pour finir, allez, une dernière, dans le 20h30 sur France 2, Muriel Robin était l'invité de Laurent Delahousse, qui l'a fait réagir. Vous savez, là, cette semaine, il y a eu une agression de deux lesbiennes dans le métro de Londres, où elles se sont fait agresser très violemment, et donc il l'a fait réagir à cette actualité.
Vous avez, vous, à subir ces violences-là sur cette identité ou pas, justement?
J'ai été traitée de... je le prenais très mal. J'ai été souvent, il y a quelques temps déjà, juste comme ça, de grosse gouine. Et ça m'agaçait beaucoup, j'allais au front, vraiment, j'étais beaucoup plus impulsive et agressive, même que maintenant, c'était une insulte pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que ça n'était pas exact, en fait, pour en revenir à raccrocher à ce que j'ai dit avant. Et puis après, j'ai lâché prise jusqu'au moment où le truc a failli mal tourner, j'ai vu un couteau sortir, donc là, je me suis dit, voilà. Et après, quand on me disait grosse gouine, je disais grosse, oui, mais gouine, peut-être pas, faudrait parler.
Et ça continue encore aujourd'hui, on le voit.
Je suis moins insultée qu'avant.
Ouais. Bon.
Voilà, Muriel.
Témoignage assez fort.
Assez fort.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Martine Laroche-Joubert pour son livre Une femme au front aux éditions du Cherche Midi. Grand reporter. Elle raconte sa vie, elle raconte son métier, sa passion pour le journalisme et pour le grand reportage. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Martine Laroche-Joubert. Son nom vous dit forcément quelque chose. 45 ans de journalisme, les trois quarts comme reporter de guerre. Bonjour Martine Laroche-Joubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. C'est un livre que vous signez aux éditions du Cherche Midi. Ce sont vos mémoires et vous dites que c'était pas si évident que ça pour vous de raconter ces histoires. Qu'est-ce qui vous a donné envie, peut-être d'expliquer à nos auditeurs, de raconter...
Je dis toujours le pro. Je trouve ça
en train de se passer un petit peu partout dans la presse. Alors les journalistes sont effectivement une des professions les plus détestées, mais grand reporter, c'est-à-dire partir à l'étranger, couvrir un conflit, vous dites aujourd'hui que votre profession, ce que vous avez exercé pendant des années, a changé et que c'est en voie de disparition, ou en tout cas, on ne va plus le faire de la même manière ?
Écoutez, là, on est à un moment charnière. Je me souviens qu'autrefois, on pouvait aller dans certains endroits, je ne sais pas, par exemple en Irak, on restait 3 semaines, puis une autre équipe nous relevait. On était là en permanence. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, sauf vraiment ponctuellement. On a fait beaucoup d'efforts. On sait que les télévisions ont moins d'argent. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour que le reportage coûte moins cher. Je parle de notre côté. Avant, on partait à 4, imaginez, avec un éclairagiste, un preneur de son. Évidemment, les éclairagistes ont vite disparu. Et puis, les preneurs de son ont disparu.
La technique a évolué aussi.
Oui, la technique a évolué. Mais surtout... je veux dire, quelquefois, il nous arrive de partir simplement à 2. Le JRI, le caméraman et moi. Ouais. Ce qui veut dire qu'on tourne toute la journée. Le soir, on va à l'arrière, on monte le sujet. Déjà, c'est compliqué sur ordinateur. Avec la fatigue, on peut se tromper. Après, il faut l'envoyer par Internet. Donc, souvent, on ne fait des reportages qu'à 2. C'est un luxe quand on a un monteur avec nous. Et voilà, c'est une tension qui est énorme. Autrefois, on envoyait les reportages, imaginez, par satellite. C'est ça qui coûtait cher. Donc, le reportage coûte moins cher qu'autrefois. Beaucoup moins cher. Alors, quand les financiers nous disent encore de faire des efforts, ce n'est pas possible.
Mais vous mettez en cause les financiers, mais pas seulement. Vous mettez aussi en cause, je cite en fin de votre livre, les patrons de presse frileux qui réduisent le nombre et la durée des reportages et les politiques qui encouragent la méfiance envers les reporters. Donc, il y a quand même toute une façon de rendre compte des conflits dans le monde qui, aujourd'hui, est remise en cause, comme le disait Valérie, disparaît. Pas seulement à cause des financiers, aussi à cause de certains patrons. Vous n'êtes pas toujours tendre avec vos anciens patrons.
Mais qui sont aussi devenus des petits hommes gris, au fil du temps.
Oui, souvent, les patrons, quand ce sont d'anciens journalistes encore, Ça va à peu près. Mais quand ce sont des gestionnaires ou quand ce sont des gens trop faibles vis-à-vis des financiers, vis-à-vis des patrons de chaîne, quelquefois qui ne comprennent pas non plus exactement quel est notre métier. Bon, quand ce sont des gens faibles, eh bien, du coup, qui paie, c'est nous. Nous partons moins. Et quant aux politiques, alors, ils attaquent plus en général les journalistes. Bon, ça va aussi du président de la République, hein, quand il dit « nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité » ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a Mélenchon, il y a l'extrême droite. Enfin, voilà, on se fait attaquer de tous les côtés. C'est quand même beaucoup. Donc, j'ai voulu... non pas défendre les journalistes dans ce livre, j'ai voulu expliquer ce métier exactement fait.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences désormais, ou beaucoup d'échanges d'images, on ne va pas être technique, mais avec les EVN, on reçoit des images du monde entier où toutes les chaînes se partagent. Donc, en effet, quelle est la particularité ou qu'est-ce que ça va faire que vous y soyez avec la différence avec un journaliste de l'AFP, par exemple, qui est
alors,
sur place.
C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'images, mais c'est notre expertise qui va compter sur le terrain, c'est notre crédibilité,
c'est notre regard, c'est la sensibilité.
Exactement, on va vérifier les informations, on va les recouper, on va essayer de voir si par exemple on peut recevoir des images très impressionnantes quelquefois dans les rédactions, mais simplement elles ne reflètent pas forcément la réalité. Ça se passe à un moment X, un endroit X, mais bon. Dans quel contexte?
Et moi, je pense qu'il faut le dire, et peut-être vous n'allez pas le dire vous, mais qu'une signature, ça a une valeur. C'est-à-dire que la signature de quelqu'un, le regard d'un journaliste en particulier, et pas juste des images d'une agence ou des EVN ou qu'on achète, ça a un prix. C'est important parce que ça permet de donner un éclairage particulier qui est la subjectivité du journaliste, et la subjectivité journalistique, elle est importante.
Oui, bien sûr. C'est notre signature qu'on joue à chaque fois. Et ce n'est pas rien, même si par tous les moyens on cherche à dévaloriser cette notion de signature, la signature c'est important. C'est ce que nous sommes, c'est notre regard.
On va se retrouver dans un instant, on continue cette discussion avec vous, Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. C'est paru aux éditions du Cherche Midi et c'est passionnant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, 10h-11h, les médias. Et on reçoit aujourd'hui Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre au Cherche Midi. Je vous recommande vraiment ce livre qui est passionnant parce qu'il raconte à la fois un métier, mais aussi une vie de femme, parce que c'est indissociable. Rémi, vous vouliez poser
Il y a tellement de cas sur lesquels je voulais revenir. Mais bon, vous racontez notamment en 93 vos reportages en Croatie. Vous êtes blessé à côté de Sarajevo. Enfin, après Sarajevo, on va dire. Et pour parler un peu des rapports avec les patrons, ça ne date pas d'hier. Vous revenez à Paris et en fait, personne ne vous attend, aucun soutien. Rien. Et vous croisez dans un restaurant votre directeur de l'information que vous allez voir.
Exactement. Je venais de rentrer. Alors mes parents m'avaient amené à l'hôpital. Bon, et puis j'arrive. Mon père m'emmène déjeuner. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le directeur de l'info avec.
Alors, c'est qui? C'est Alain Danvers, je le dis pour vous.
Il était là à table avec ses convives. J'arrive avec mes béquilles et je lui dis « Mais c'est comme ça que tu t'occupes de tes reporters ?» Et il me répond « Ah, mais je t'ai envoyé des fleurs. » Je les attends toujours, les fleurs.
Donc vous voyez que le côté un peu, on dit c'était mieux avant, oui, c'était pas toujours.
Non, pas toujours.
Le statut de journaliste et de reporter de guerre a toujours été quand même un peu borderline par rapport aux médias, non?
Oui, parce que souvent les directeurs de l'info n'ont jamais fait ce genre de terrain et ils ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. Ils n'ont absolument pas conscience des risques. Ou alors ils en ont trop conscience et enfin... Et ils imaginent des choses terribles qui en réalité, existent moins que ce qu'ils pensent.
Et vous racontez qu'à un moment donné, ils vous demandent de porter un petit bip, enfin un truc
un tracker.
Et vous dites, mais si je fais ça, on va être repéré. Donc en fait, vous le prenez, mais vous ne l'aimez jamais.
C'est un tracker, oui. Ils me donnent un tracker, c'est pour me faire repérer à Paris. Voilà, donc quand je l'allume, ils voient sur des ordinateurs où je suis en Syrie. Mais je leur dis, mais attendez, je veux bien, c'est peut-être valable quand on est dans un désert, mais là, je suis en Syrie, en face, il y a les Russes sont les rois de la détection, vous pensez bien que si vous réussissez à me voir à Paris, ils vont réussir à voir le signal du tracker. Non, il fallait absolument que je le prenne, que je l'allume, Bon, j'ai pris le tracker, il était tout le temps éteint. Bon, voilà, ou alors je l'allumais, puis je l'éteignais. Bon,
mais
c'était absurde.
Reconnaissez que vous êtes une personnalité à part, quand même, qu'il y a plein de journalistes qui n'ont pas forcément envie d'aller jouer leur vie.
Bah, y en a eu beaucoup, Gilles.
Enfin, oui, il y a Patrick Bourrat,
il
oui,
n'y a, bah, a pas que Patrick Bourrat, il y a énormément mais de grands porteurs.
Est-ce que vous avez jamais eu, par rapport à votre famille ou autre, une peur d'y aller ou une peur de la mort?
Non, pas vraiment, parce que mes enfants, ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours su, ils ont toujours été persuadés que je reviendrai. Donc j'avais l'impression que ça me protégeait d'une certaine manière. Ils n'ont jamais manifesté la moindre inquiétude.
Mais attendez,
jamais.
Une anecdote extraordinaire, quand vous êtes à Bagdad, vous racontez que dans la guerre du Golfe, votre fils
Constant
vous envoie des plein d'infos sur les avions, les trucs, pour pas que vous fassiez d'erreur à l'antenne.
Voilà, sa seule angoisse, c'était complètement, que je me ridiculise complètement, parce qu'il trouvait que j'étais nulle en matière d'armement militaire, de missiles, etc. Donc il dessinait les modèles, il me les envoyait par fax à l'hôtel, ça le préoccupait beaucoup, que je ne sois pas ridicule à l'antenne. C'était sa seule angoisse. Et une fois, quand mon directeur de l'information, j'étais à Bagdad, m'a demandé de rentrer à Amman, parce que la première guerre se déclarait, enfin bref. Donc je suis arrivée à Amman, j'appelle Alexia. Alexia me dit, mais tu es où? Je lui dis, je suis à Amman. Et Alexia me répond, mais enfin, qu'est-ce que tu fous à Amman? C'est à Bagdad que ça se passe. Oh là là! Donc, il a fallu que je récupère un visa, que
vous
je reparte,
que c'est votre grand regret, ça. Hein
Oui, c'est un grand regret, parce que les reporters, ils doivent être là où ça se passe. Oui. Et je pense que même quand ils reçoivent l'ordre de partir, enfin, c'est une opinion toute personnelle que je défends, hein, je pense que j'aurais dû désobéir à cet ordre en inventant un mensonge. Le directeur de l'info, il faisait son boulot. Mais moi, j'aurais dû rester. Voilà.
Et vous avez toujours cette même envie de vous continuer, encore aujourd'hui, vous avez quitté France 2, mais vous continuez à avoir envie, parce qu'on a ce qu'on appelle le cul de plomb de temps en temps, quand on est grand reporter, c'est-à-dire où au bout d'un moment, on est un petit peu lassé de partir. Vous avez toujours
moi,
cette même envie.
Moi, ça m'intéresse toujours, à la condition, évidemment, que je puisse apporter quelque chose, comme mon expertise, mes contacts sur place, la condition que je puisse proposer une histoire originale. C'est pas facile, hein, parce que, bon, là, il y a beaucoup de reporters quand même freelance, on est nombreux, il faut que je puisse apporter un plus, et un plus qui me soit très, très personnel.
Et pour vous, pas de territoire interdit, quitte à être enlevé?
J'ai aucune envie d'être enlevée ou quoi que ce soit. Je fais attention. J'essaie de travailler avec des fixeurs en qui j'ai confiance. Les fixeurs sont, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous dans les reportages pour nous aider à prendre les contacts, pour nous dire là c'est dangereux, là il vaut mieux ne pas y aller, là en revanche on peut y aller. Voilà, je leur fais confiance, je travaille avec eux et jusqu'à présent, bon, j'ai réussi à déjouer. Presque
beaucoup,
tous les pièges.
Beaucoup de réactions d'auditeurs de Sud Radio qui sont très admiratifs, qui vous félicitent. Et un de nos auditeurs, Xavier, nous dit « Madame Laroche-Joubert fait partie de cette race de journalistes qui m'a donné il y a 36 ans la passion de faire ce métier. Je voudrais savoir comment cette grande professionnelle juge le travail des chaînes d'infos qui n'analysent plus rien du tout. » Alors c'est un autre sujet, mais en même temps, vous avez sûrement un regard sur ce qu'on voit effectivement aujourd'hui sur les chaînes d'infos avec
alors,
des commentaires.
Franchement, les chaînes d'infos, moi, je les regarde. Je trouve qu'on est souvent beaucoup trop sévère avec les chaînes d'infos. Une chaîne d'infos, c'est une chaîne d'infos, quoi. Elle regarde, il passe ce qui arrive. Voilà. Et puis, il y a quand même des débats qui remettent les choses en perspective, etc. Bon, moi, je n'aimerais pas travailler dans une chaîne d'infos parce que, voilà, je trouve qu'il y a trop de débats, trop de choses comme ça. Et ce n'est pas mon métier. Mais bon, quand je veux savoir quelque chose sur ce qui se passe en France, hein, parce qu'ils ne sont pas très tournés vers l'étranger,
on voit que l'international a disparu partout.
Exactement,
il y avait le journal du Monde de Vincent Hervouet qui est passé à la trappe. On voit que dans les journaux, dans les JT, maintenant, le JT correspond, il faudrait un jour qu'on explique ça, d'ailleurs, à une mathématique extrêmement précise, où il ne faut pas qu'il y ait d'international avant 20h12, on le case entre deux sujets, enfin, c'est l'international, c'est vraiment aujourd'hui le parent pauvre du journalisme.
Ça c'est sûr que sur les chaînes d'infos, en tout cas, les chaînes d'infos sont franco-françaises, ça c'est sûr. Dans les journaux télévisés, bon, c'est vrai qu'avant, on passait beaucoup plus de sujets étrangers. Quelquefois d'ailleurs, en faisant ce livre, je me suis replongée un peu dans les journaux d'autrefois. Et c'est vrai que nous passions quelquefois des sujets, mais très diplos même, très difficilement accessibles pour le public. Ça, c'est vrai. Il y en a moins. En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on peut passer des sujets beaucoup plus longs sur l'international si ça en vaut la peine. Ouais. Voilà. Je me souviens qu'avant, quand on téléphonait, la première question, c'était combien ça fait, le sujet. Ouais. Bah, ça fait... Ouais. Avant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, maintenant, si le juge nécessaire, ok, on peut passer des sujets de 5, 6, 7 minutes qui se passent à l'étranger. Mais il faut vraiment que ça en vaille la peine. Hein.
Oui. Rémi?
Bah, vous avez beaucoup fait beaucoup de reportages en Afrique et vous expliquez dans votre livre que vous avez une fascination pour l'Afrique. Pour vous, c'est le continent de toutes les richesses. Et je cite, vous dites, c'est l'authentique tribu humaine.
Ouais.
C'est fort comme point de vue.
Oui, oui. C'est, je me sens comme dans une terre originelle, une terre d'où tout est parti. Voilà, c'est une sensation, je dirais, presque physique. Ce n'est pas facile de travailler en Afrique parce que souvent on part avec des idées en Afrique et puis on ne peut pas faire ce sujet et c'est un autre sujet qui se présente à vous et qu'il faut savoir attraper. Donc voilà, c'est un continent en plus où en tant que journaliste, il faut tout le temps se remettre en question à cause de ça. Il faut garder sa curiosité intacte. Mmh. Mais j'ai rencontré en Afrique des personnalités vraiment qui...
Ah, vous avez rencontré tous les présidents
J'en ai rencontré pas mal.
Enfin, pas mal, en tout cas.
Dont Mandela,
qui est mon héros absolu. Oui.
Vous racontez quand même comment vous avez réussi. Vous avez réussi à l'interviewer alors que c'était impossible en allant chercher à plusieurs centaines de kilomètres sa sœur. Et c'est incroyable.
Voilà, en me faufilant derrière sa sœur, en sonnant à sa porte quelques jours après sa libération. Et il a ouvert la porte, on s'est faufilé derrière sa sœur. Je lui ai posé 3-4 questions et hop, le caméraman et le preneur de son ont été expulsés par les gens de l'ANC parce qu'à ce moment-là, il fallait payer pour interviewer Mandela et c'était beaucoup plus cher que la régie d'Antenne 2.
Vous allez repartir, vous pensez repartir en reportage, c'est quoi votre
prochain
reportage?
Je pense plutôt repartir au Moyen-Orient, à Mossoul. Voilà, je suis en train d'essayer de monter un reportage avec Alain de Chalvron qui lui aussi a quitté France 2. Voilà, donc on travaille là-dessus tous les deux.
D'accord. La photo, je voulais que vous nous commentiez la photo c'est pas très radiophonique, mais on vous voit avec un enfant qui pointe le doigt. C'est une photo. Il y a pas mal de photos dans le livre de vous en situation. Cette photo, pourquoi vous cette
Alors,
une
cette
Pourquoi
photo, cette photo de couverture Cette photo, elle a été prise à Sarajevo en juin 1992 par le GRI Jean-Marie Le Maire. On a été les premiers à rentrer dans Sarajevo à cette époque-là. Et cet enfant, je ne sais pas ce qu'il me montre, mais ça a l'air de m'intéresser parce que voilà, son doigt. J'aime bien cette photo parce que... Voilà, c'est une photo de guerre, mais en même temps, il y a un enfant et les enfants sont les premières victimes de la guerre. Ça, c'est une certitude. Voilà, les enfants sont vraiment les premières victimes parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Enfin bon, ce sont des générations sacrifiées. Et voilà, donc c'est pour ça que nous avons choisi cette photo.
Moi, je voulais savoir ce que vous pensez des réseaux sociaux parce que c'est vrai que tout le monde maintenant se prend pour des reporters. Il suffit qu'il y ait un événement pour qu'on reçoive un fil avec des photos, des témoignages, des fake news. Comment quel est le regard que vous portez là-dessus?
Écoutez, moi, j'y trouve pour le moment plus d'avantages que d'inconvénients. Parce qu'après tout, on est comme ça, informé, mieux ou mal informé, souvent mal d'ailleurs. Mais bon, ça m'intéresse d'aller regarder. Maintenant, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de fake news, en effet, qu'il faut absolument envoyer des reporters. Parce que les fake news, en effet, les gens les reçoivent et ils ne savent pas que c'est faux. Voilà. Mmh. Et si on n'envoie pas des reporters sur place pour endiguer le flot de ces fake news, de ces fausses informations, eh bien, ils ne sauront pas la vérité.
Y a beaucoup de défiance vis-à-vis des journalistes. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est justifié que...
Écoutez, moi, je ne le ressens pas trop parce que je travaille beaucoup à l'étranger. Mais souvent, je trouve ça injustifié. Franchement, les journalistes... Souvent, ils font de leur mieux. Mmh. Vraiment. J'ai rarement rencontré de journalistes qui aillent quelque part sur le terrain en s'en foutant. Pas du tout. Les journalistes, ils font de leur mieux. Alors, quelquefois, c'est vrai qu'ils peuvent rater leur reportage. D'accord, mais ils réussiront celui du lendemain. C'est un métier que l'on fait vraiment avec beaucoup de passion. C'est pas un métier où on gagne de l'argent. On le fait parce qu'on est intéressé par le monde, ou par les autres, ou par la politique.
On le ressent beaucoup en lisant votre livre. On voit
exactement.
La passion.
Donc, franchement, je trouve que en plus, je veux dire, les journalistes sont des gens qui doutent beaucoup. Je ne connais pas de journalistes qui imaginent avoir la science infuse. Mmh. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Les premières critiques des journalistes viennent d'eux-mêmes. Mmh.
C'est ce que nous disent quelques auditeurs, enfin quelqu'un qui dit vraiment ce qu'elle pense, oui. En particulier sur le début de l'émission, où vous disiez aujourd'hui c'est la logique comptable qui compte.
Oui, c'est bien, dernière question, pas la France. Vous terminez quand même en disant que vous voulez rester optimiste malgré les pressions, malgré les menaces. Le journalisme vivra et continuera son combat pour la vérité. Oui. Vous en êtes persuadé ?
Écoutez, l'année dernière, j'étais jurée là, au Festival des correspondants de guerre à Bayeux. Et alors... nous avons lu un article de 17-18 pages, absolument extraordinaire, sur un sujet qui, a priori, n'intéresse personne. Que deviennent les cadavres des hommes de Daesh ? Bon, c'est pas un sujet, a priori, très, très attrayant, très attirant. Et j'ai lu 17 pages stupéfiantes, même philosophiques, d'un journaliste qui était allé sur le terrain. Il y avait son ressenti, mais c'était tellement profond et tout. Et nous avons appris... après, que c'était un journaliste de 27 ans qui avait écrit ça pour un site internet. Ouais. Et là, j'étais complètement sciée, voilà. Voilà, si des gens de 27 ans sont capables de faire ça, mais ça, c'est formidable. Je sais pas, quand je vois aussi les journalistes de Cache Investigation sur France 2, quand je vois certaines enquêtes de presse écrite et que je vois l'âge des journalistes, je me dis, bon, bah, ceux-là, ils vont s'accrocher quand même.
Ouais, Cache Investigation, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'elle est un petit peu en ce moment dans la tourmente, Élise Lucet, avec le glyphosate où on lui reproche un certain nombre de choses.
Oui, mais il n'empêche que c'est de l'investigation au long cours. Hein, les journalistes qui travaillent là-dessus travaillent sur un an. Voilà.
Alors, ce livre, donc, Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, vous dites, je voulais essayer de montrer pourquoi je crois ce métier si nécessaire, et il faut le lire pour comprendre justement de ce qu'est ce métier de grand reporter. Merci beaucoup, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. Quelques petites infos, grandes infos, qui concernent ce qui se passe à la télé, à la radio, dans la presse. C'est un auditeur, Cédric, qui me signale une chose assez amusante. Il me dit, faut-il faire ça pour faire frémir les abonnements ? Offre spéciale proposée par Libération jusqu'au 23 juin et dans la limite de 1000 abonnements, bénéficier d'un accès illimité à Libération 100% numérique et de tous les avantages abonnés à vie. Donc c'est pour gagner des abonnés, on en est aujourd'hui pour 400 euros. Hein. Pour 400 euros, Libé et vous, c'est pour la vie. Vous croyez que ça peut séduire les gens? La presse écrite traverse une vraie crise.
Oui, c'est pour ça que moi, toutes les bonnes idées méritent d'être testées. C'est vrai que transformer le grand défi des éditeurs de presse écrite, c'est de transformer des personnes qui consultent les sites en abonnés numériques. Ouais. Et donc, voilà.
Donc là, pour 400 euros, vous êtes abonné à vie.
C'est pas si mal.
Libération.
Pourquoi pas, je trouve que c'est peut-être une bonne idée.
Vous dites, tous les moyens sont bons.
400 euros à vie. Ouais. Bon.
Ce soir, M6 devait diffuser un prime time inédit de sa série En Famille, et puis non.
Non, on a appris la semaine dernière effectivement qu'il y avait une déprogrammation et que donc le prime time inédit était annulé. Il sera diffusé, on ne sait pas quand. Et à la place, ils rediffusent le premier prime time de la série En Famille, qui date de septembre 2016. Alors bon, très bien, pas de raison particulière communiquée par la chaîne, sauf que on comprend bien que c'est à cause de la concurrence du football féminin. Il y a ce soir sur TF1 un match de l'équipe de France. TF1 a les droits de l'équipe de France féminine. Et M6 en a la moitié aussi. Donc, ils n'ont pas voulu griller leur programme de prime inédit. Sauf que...
C'est pas un peu du mépris du téléspectateur, je veux dire, c'est de dire, on va pas gâcher notre programme.
C'est un investissement.
Non, mais sauf que déjà, c'est interdit. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous annoncez une programmation, vous n'avez plus le droit
Avez dirigé des journaux télé, donc
exactement,
vous connaissez très bien...
Tout à fait. Donc, on n'a pas le droit de modifier la programmation d'une chaîne, sauf pour une liste de raisons qui est très limitative et très précise, qui sont l'actualité, des problèmes de droit, etc. Ça ne rentre dans aucun de ces cas. Donc c'est tout simplement un contournement des règles habituelles du CSA d'un côté, et puis des règles qui sont mises en place entre les chaînes et les éditeurs de presse magazine qui communiquent les programmes. Et donc, normalement, c'est un casus belli, cette histoire, parce que TF1 peut très bien dire, bon, puisque vous avez fait ça, moi, le prochain match où j'ai prévu... la prochaine occasion où j'avais prévu de mettre un inédit, mais je vois qu'il y a un programme fort en face, je vais le déprogrammer en dernière minute et le remplacer par ça, il y aura jurisprudence. Mmh. Donc c'est tout l'équilibre un peu de la communication des programmes qui, à travers ce changement, est menacé. Et comme ils disent, oui, mais on remet du En Famille...
Mais c'est plus
à la place d'un
ça,
en famille. Ouais. Oui, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a déjà eu, je me rappelle, moi, de réunions épiques entre les éditeurs et les diffuseurs, où ils avaient fait ça, remplacer des inédits par des rediffusions, et évidemment, ça change tout.
Donc tout le monde s'en fout maintenant.
Et à l'époque, c'était TF1 qui râlait, ou M6 qui râlait. Vous voyez, chacun était d'un côté de la table.
Non, ça ne vous choque pas, Gilles ?
Ça me choque dans le non-respect des personnes.
Tous les gens qui vont regarder leur magazine de télé, ils vont voir la description d'un programme avec Yvon
Le Bolloc,
avec des choses inédites. Puis en fait, non, c'est un truc qu'ils auront déjà vu.
Donc dans ce sens-là, après, je comprends la chaîne qui ne pouvait pas s'attendre, c'est vrai, à ses scores... de matchs de football de l'équipe féminine et qui a sûrement investi beaucoup
d'argent.
Elle
est bien bonne, celle-là. Dans
après, vous faites la télé pour qui ? Pour les
téléspectateurs ? Non, puis je vais vous dire, Gilles, quand eux diffusent le match de l'équipe de France qui fait 9 millions de téléspectateurs, ils ne se préoccupent pas de savoir si la concurrence en face a été écrasée. Ça, ce n'est pas un problème. En revanche, quand ils ont en face 2, puisqu'ils ont la moitié des matchs, ils ont en face 2 un match, là, ils changent leur programme.
Donc vous entendez qu'ils sont des mauvais joueurs, qui trichent ?
Complètement, tout à fait.
Non, mais moi, ce qui me préoccupe plus, c'est le mépris du téléspectateur. C'est-à-dire, ça ne vaut pas le coup de diffuser un programme intéressant parce qu'il n'y aura pas assez de monde devant la télé.
Oui, et surtout, alors on peut le dire à nos auditeurs qu'ils ont fait une grande campagne. C'est-à-dire que toute la presse a reçu des bols bretons. Ouais. Il y a eu une communication.
Pour la nouvelle saison.
Il y a eu 15 jours de communication qui ont été faites. Nous, on devait recevoir Yvon Le Bolloc aujourd'hui. Ça a été annulé. Donc, c'est quand même une décision surprenante.
Allez, autre information. Qui veut, Rémi ?
Non, juste parce que comme on parlait tout à l'heure de la Maison France 5, je vous disais qu'on allait en reparler. Ben oui, il y a une nouvelle série documentaire qui va arriver sur France 5 le 5 juillet. Nos maisons ont une histoire, et c'est Stéphane Thébault qui présente la Maison France 5, qui va la présenter. Ce seront autour des anciennes bâtisses dont les propriétaires veulent mieux connaître l'histoire. Et donc, on va raconter un peu l'histoire de certaines maisons avec des archives, des habitants de la ville, des guides, des spécialistes, des historiens. C'est, je trouve, une très bonne idée. Et on va voir ce que ça donne. Ça surfe sur le succès de la Maison France 5.
Ce week-end, il y a eu deux annonces importantes. L'arrêt de Chicha et de Bonsoir, les deux magazines clair de Canal+, le magazine du cinéma s'arrête donc. Le magazine qui était à 19h le samedi de Bonsoir s'arrête. Je me demande si on ne va pas vers une partie de l'arrêt du clair qui est une vraie volonté Canal+.
C'est plus ou moins ce qu'on avait cru comprendre quand on avait reçu Gérald Brésiret.
Absolument, et je pense que l'arrêt de ces deux émissions commence à être le signal que sûrement l'arrêt du clair du week-end.
Pourtant, il maintient
une nouvelle émission. Normalement.
Oui, mais pas en clair.
Ah, c'est possible, oui.
Et puis, a priori, Yves Calvi va continuer en clair.
Yves Calvi continue et l'émission culturelle qui était. Enfin, culturelle. Oui. L'émission qui était derrière s'arrête et est remplacée par l'émission de. Comment il s'appelle de, vous savez, j'ai un trou.
Par
Mouloud Achour devient quotidienne le soir.
Voilà. Autre information, Michel Bernier accueille des acteurs de Plus belle la vie dans La Stagiaire. Ça c'est tombé ce matin dans Le Parisien. Donc il va y avoir ça s'appelle comment, un crossover, c'est ça ?
Bon, en fait, là, c'est pas vraiment un crossover, c'est les acteurs eux-mêmes qui viennent.
Les acteurs, donc ouais. Rebecca Hampton, Aurélie Vanek, voilà. Jean-François Mallet.
Après, il y a même des acteurs de Demain nous appartient, Cyril Garnier, de Tandem, Renaud Lemans. Donc, il y a plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs séries, mais notamment de Plus belle la vie, il y en a trois, ceux que vous venez de citer, et donc qui vont arriver dans La Stagiaire, donc La Stagiaire qui marche toujours bien sur France 3.
Vous savez quoi, Valérie, Daphné Burki, elle a trop de travail.
Ah bon ?
Elle en peut plus, elle est fatiguée du coup, elle ne peut plus faire prodige. Parce que là aussi, c'est rempilé pour une autre année. Parce que c'est compliqué. Elle a du travail, vous savez. Ouais. Alors,
bon, alors, c'est elle qui a décidé d'arrêter, c'est ça ?
Oui, enfin, il faut juste dire que quand elle a repris prodige, ça a fait un peu planter l'émission et que l'audience n'a pas été au rendez-vous. Alors que quand il y avait Marianne James, l'émission a toujours eu du succès et de l'audience. Mais on se trouve les excuses que l'on veut. Mais en tout cas, elle sera de nouveau en quotidienne dès l'année prochaine pour l'émission Amour, etc., qui n'est pas non plus un grand succès, comme les Victoires de la musique, mais que voulez-vous, elle travaille.
Oui.
Bon, elle va être contente de votre commentaire, Gilles. Oui, peut-être une nouvelle émission politique sur CNews. Jean-Pierre Elkabbach, le dimanche soir, a obtenu un nouveau rendez-vous pour réhabiliter les grands rendez-vous politiques du dimanche soir. Ce sera de 19h à 20h. Il recevra un ou deux invités qui viendront de la sphère politique, mais aussi de la culture et de la technologie. Et alors, il explique qu'on sera vraiment dans la prospective, non dans la redite de ce qu'on a entendu dans la semaine. Donc ça, c'est pour donner envie. Une couleur
différente. J'ai vu passer un tweet très méchant qui disait c'est de l'acharnement thérapeutique. Mais bon, donc nouvelle émission sur CNews pour Jean-Pierre Elkabbach. Et puis Laurent Ruquier, on va en reparler dans un instant, certainement à partir de 11h dans le JDD. Nous vivons sous la dictature des réseaux sociaux et de Marlène Schiappa. C'est une interview qui a beaucoup, beaucoup fait réagir ce week-end. Merci à vous. C'est les 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Valérie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
Quoi ?
Ce soir, sur TFX, dans l'appel d'urgence, il n'y a pas de gendarmes.
Non.
Ils ne suivent pas les gendarmes. Non. Mais ils suivent les pompiers.
Ah,
rassurez-vous.
Dans le sud, au moins.
Dans le sud. Sinon, je ne leur aurais pas sélectionné. Durant 90 minutes, on va partir dans une région chère à notre radio, les plages de Biarritz et de Bayonne. Et ils s'en passent là-bas.
Vous croyez que je vais être convaincue ?
Vous allez écouter. C'est un été très chaud. Les férias, les noyades, les inondations. On ne s'est plus donné de la tête. Et alors, pour en savoir plus, on a téléphoné au producteur du programme, Mathias Favron, de TF1 Productions. On lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de suivre ce nouveau numéro d'appel d'urgence à 21h sur TFX.
Bonjour. Alors, si vous aimez vibrer devant votre écran, si vous aimez l'action, mais aussi les héros, les vrais héros, alors vous allez vous régaler avec ce nouveau numéro d'appel d'urgence. Imaginez, des touristes imprudents, des fêtards inconscients, des surfeurs en perdition, sans parler des orages hors normes qui ont littéralement inondé toute la région. C'est ce que vont devoir affronter les pompiers de la Côte Basque. Et vous allez voir que eux ne sont pas vraiment en vacances et qu'ils se souviendront longtemps de cet été vraiment très très chaud.
Moi, je vais regarder pour les surfeurs en perdition. Non, je crois que ce soir, il va pas y avoir match, hein, comme on dit.
Il y a Nigeria-France
sur TF1 et Canal.
Et Canal, exactement. Donc, Meurtre au paradis, la série sur France 2. Je vous trouve très beau,
un film avec Isabelle
Margot et Michel Blanc sur France 3. Nicolas Le Floch, la série policière. Donc, en famille, la Rediff, n'est-ce pas ? Et puis, après, il y a...
Sister Act sur W9, Men in
Black 3,
Et la LFR,
le grand débat, c'est de savoir quelle va être l'audience de Nigeria-France.
Alors, Patrick Roger nous a dit en partant qu'il tablait sur 7 millions.
Il est bas, Patrick.
Moi, je vois pas pourquoi ça ferait encore 9 millions. La dernière fois, je me suis trompé. J'ai pensé que ça allait baisser.
Moi, je dis 8 millions là, parce qu'il fait 9. Les gens vont le regarder dans les cafés.
Moi, 9.
Allez, 9, tout le monde est...
9 aussi.
Allez, moi, 8.
9 sans Canal+. Donc 10 avec Canal+.
Bon, moi, 8, 8, 8, 9, je ne précise pas,
on verra, on fera les comptes demain. Allez, nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Appelez-nous, racontez-nous vos souvenirs du bac. On va parler également de ces quotas d'immigration que veut remettre en place le ministre de l'Intérieur. En tout cas, il l'a évoqué dans une interview. Le service national... qui redémarre aujourd'hui le service national civique. Oui, vous allez y aller, vous avez raison. Pour chanter la Marseillaise tous les matins. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.